Bonjour et bienvenue, le grand face-à-face de France Inter fait sa rentrée. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison et pour reprendre le fil de nos débats sur les grands enjeux contemporains. Dans un instant, retour sur l'actualité de la semaine avec le duel Polony-Finkelstein. Et puis rendez-vous à 12h30 avec le directeur de la rédaction du quotidien Libération. Laurent Geoffrin publie le roman de la France chez Taillandier, le premier tome d'un récit national qui retrace la notion de liberté dans notre pays, de Vercingétorix à la Révolution. L'histoire et l'actualité, puisqu'on croise dans le livre La famille Le Pen, Éric Zemmour ou La théorie du grand remplacement, l'histoire de France en question. Ce sera donc dans une demi-heure avec Laurent Geoffrin. Tout de suite, le duel.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Le grand face-à-face avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, qui se moque de moi. Bonjour Natacha.
Bonjour,
ça
non,
commence
je ne me
bien
permettrai pas.
Parce que j'ai dit Vercingétorix.
Mais oui, c'est très joli. Parce
et
qu'en
pas
effet...
X.
Voilà, mais on va prendre des risques
voilà,
cette année.
C'est très bien dit. Et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, le très bienveillant Gilles Finkelstein. Bonjour.
Bonjour, et donc il ne s'est pas moqué.
Tout va bien Gilles.
Ça va.
Heureux de vous retrouver les amis. Question traditionnelle que je ne vous poserai pas. Avez-vous passé un bel été ? Emmanuel Macron avait conseillé aux journalistes de se reposer pendant les vacances. Et il faut dire que c'était en pleine affaire de Rugy. Vous avez suivi ses conseils, Natacha ?
Oui, très bel été, mais été très sec. Et je dois dire que j'ai passé mon été à attendre la pluie, à regarder le niveau des rivières en étant absolument effarée. Et je pense qu'il serait quand même temps de vraiment de prendre la mesure de ce qui est en train de se passer.
Et tant qu'il pleuve.
Oui, mais bien sûr, c'est un enjeu majeur, il faut qu'il pleuve.
Alors le président de la République, lui, a-t-il vu la pluie ? A-t-il passé un bel été ? Il avait commencé son été avec la démission de François de Rugy. Un mois après, c'est la rentrée. Après le G7 de Biarritz, Emmanuel Macron répondait en exclusivité lundi dernier aux questions d'Anne-Sophie Lapix dans le 20h de France 2.
Alors qu'est-ce que c'est un sommet utile ? D'abord, le principe même d'avoir des discussions ouvertes entre les 7 principaux pays industrialisés qui partagent des valeurs démocratiques, c'est utile. Là, je crois pouvoir dire qu'on a parlé de tout avec beaucoup de liberté. On s'est parfois mis d'accord, d'autres fois non, mais ça, ça a une utilité. Parce que ça évite qu'on parte dans des chemins divers.
Avant de parler du fond des choses et de ce qui s'est joué au G7, il y a quelque chose d'étonnant dans la communication politique et dans la vie politique tout court. On part en été avec François de Rugy, l'affaire des homards, si mes souvenirs sont bons, du champagne et des intolérances alimentaires, une démission. On revient et c'est le président de la République en majesté, mise en scène en majesté, comme les institutions de la 5e République lui permettent, qui s'impose. Comment expliquer ce qui s'est passé cet été, Natacha ?
Oh, comment expliquer ? Il y a une espèce d'immédiateté de l'actualité et du traitement de l'actualité par les médias qui donne cette impression de montagne russe, c'est-à-dire que les mêmes qui sont scandalisés par l'affaire de Rugy, qui disent « ça y est, il est mort », 3 semaines après, un mois plus tard, trouvent que c'est merveilleux, Emmanuel Macron est tout puissant. Bon, il faut se garder des excès et surtout réinscrire chaque commentaire, chaque jugement dans un temps long. Et or, évidemment, le rythme accéléré des chaînes d'information continue, des réseaux sociaux, rend beaucoup plus difficile cette juste mesure.
Gilles ?
Oui, c'est juste. Natacha a utilisé une image météorologique pour parler de ses vacances. Si on regarde cette rentrée pour Emmanuel Macron, je crois qu'on pourrait dire c'est ciel bleu, nuage en formation.
Pourquoi en formation ?
Alors d'abord, pourquoi ciel bleu ? Il y a le succès diplomatique du G7 et je trouve la réussite dans l'explication pédagogique dans le journal de France 2 chez Anne-Sophie Lapix, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a une forme de pragmatisme sur les retraites avec l'ouverture en forme vis-à-vis de la CFDT. Si on ajoute à ça une économie française qui résiste plutôt mieux que beaucoup d'autres, avec un chômage qui baisse et une croissance qui se tient, une opinion qui remonte un peu et qui retrouve en gros en septembre 2019 le niveau de septembre 2018.
Ah, et donc enfin, il y a des facteurs objectifs, pas uniquement
oui.
Donc, le rythme médiatique.
Et enfin des oppositions qui continuent de se diviser, les Républicains à la enquête d'un leader, la France insoumise sur le fond et notamment sur l'islam, les Verts sur la stratégie. Ça, c'est le côté ciel bleu. Les nuages, ou les nuages en formation. Il y a, je crois, des nuages internes avec le risque social sur la question des retraites qui reste devant nous. C'est un dossier qui est un dossier absolument majeur et très difficile. Il y a un risque politique avec des élections municipales qui ne sont pas simples et on voit, y compris La République En Marche, se diviser à Paris. Et puis il y a, je crois que c'est le plus important, un risque extérieur qui est un risque économique. On a vu cet été des turbulences très importantes sur les marchés financiers, l'inversion des taux et nos voisins qui sont tous, peu ou prou, en récession. Et je crois que c'est ça, là, le principal risque aujourd'hui pour Emmanuel Macron, c'est ce qui dépend le moins de lui.
Natacha Polony.
Disons le premier point que, en effet, sur la scène diplomatique, Emmanuel Macron est toujours bon. Il a ce sens du coup, non pas pour le coup médiatique, mais là du coup qui permet de faire avancer les choses. Moi, ça fait 2 ans que nous faisons cette émission et 2 ans que, à chaque fois qu'il y a ce genre d'événement diplomatique, je constate en effet que ça, il sait faire. La question étant de savoir ensuite comment il traduit cela dans une politique, notamment dans une politique intérieure ou une politique européenne, parce que on le voit avec le traité sur le Mercosur, que Emmanuel Macron, parce que il y a une crise diplomatique avec Jair Bolsonaro, en profite pour remettre en cause ce traité, c'est très bien. Mais une semaine avant, ses ministres nous expliquaient qu'il fallait absolument signer ce traité et que lui-même avait expliqué que c'était un bon traité. Donc un petit peu de cohérence en la matière serait tout de même appréciable. Mais ensuite, là où Gilles a tout à fait raison, c'est de souligner en effet le risque de tout simplement de krach boursier, le risque sur l'économie internationale, parce que cette économie n'a absolument pas tiré les leçons de la crise de 2008, parce qu'il y a des facteurs de tension qui sont très dangereux. Et d'ailleurs, il faut s'intéresser, en effet, Gilles le citait, à la question des taux négatifs, qui d'abord sont un signe d'absence de confiance dans l'avenir, et puis surtout qui sont en train de bouleverser la donne économique. Le concept d'épargne est en train de s'envoler. C'est quelque chose de majeur, et c'est une aberration économique. Enfin, dernier point sur la scène nationale, il suffit de se promener un petit peu partout en France et de discuter avec des gens pour comprendre que les facteurs qui ont provoqué l'explosion de l'an dernier sont toujours là et que certains citoyens, beaucoup hélas, ont nourri une rancune supplémentaire du fait de la façon dont a été soldée la crise des Gilets jaunes, c'est-à-dire que la colère, elle est toujours sous-jacente, tout ça est toujours là.
Gilles ?
Je partage l'idée que sous la cendre, il y a encore des braises, et que donc rien n'est définitivement, évidemment, acquis pour Emmanuel Macron sur ce terrain-là, en dépit des 10, 12, 15 milliards qui ont été injectés, et dont on voit d'ailleurs, de manière paradoxale, les effets sur la croissance. Une des raisons pour lesquelles la France tient mieux, c'est grâce aux gilets jaunes et aux mesures qui ont été annoncées.
Ce qui prouve que l'austérité est une mauvaise idée.
Sur l'autre point, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait toujours été bon sur la scène internationale.
Très souvent.
Il a pas... Souvent. Mais le pari qu'il a fait de Donald Trump au début était un pari qui a été raté. Les ouvertures qu'il a fait envers Angela Merkel et l'Allemagne ne se sont pas traduites.
Ça, là, c'est la scène européenne. Et là, en effet, c'est
je trouve qu'il a eu à la fois, comme souvent, de l'audace sur la forme, y compris en faisant venir le ministre des Affaires étrangères iranien, de l'audace sur le fond avec une inflexion par rapport à la Russie, une forme d'opportunisme aussi, vous l'avez dit, sur le Mercosur, mais je trouve qu'il a eu plus d'habileté, qu'il a gagné en expérience, 2 ans presque 2 ans à la tête de l'État. Je trouve qu'il a mieux géré des personnalités qu'il connaît et un sommet qu'il devait organiser qu'il ne l'avait fait auparavant.
Natacha Namo.
Pour ma part, ce qui m'intéresse, alors d'abord, en effet, il n'a jamais réussi à transformer cette habileté en capacité à instaurer un rapport de force sur la scène européenne avec l'Allemagne. Pour l'instant, il ne l'a pas fait, on va voir. Simplement, moi, ce que je trouve intéressant dans sa posture, pourquoi je dis qu'il a réussi cela, c'est tout son discours, notamment son discours aux ambassadeurs, c'est-à-dire toute cette prise de conscience, pour l'instant ce ne sont que des mots, de la nécessité absolue de sortir l'Union européenne de l'impérialisme américain et de cet étau entre l'impérialisme américain et l'impérialisme chinois. Cette vision de la place de la Russie, Emmanuel Macron a tout de même osé critiquer ce qu'il appelle l'état profond en France, c'est-à-dire le néoconservatisme de certains diplomates du Quai d'Orsay, en même temps que la puissance de la technostructure, notamment celle de Bercy. Je trouve ça intéressant. Après, il faut transformer ça en actes. Les mots, c'est toujours très facile.
La France France a donc finalement désigné celle qui sera commissaire européen française et donc à Bruxelles, Sylvie Goulard, ancienne du Modem, ancienne ministre qui a dû démissionner. C'était la première du premier gouvernement Macron à démissionner et 2 ans après, elle se retrouve nommée à ce poste important. Gilles Adamo, que pensez-vous de cette nomination ?
Je crois qu'il y a plusieurs conditions qui doivent être cumulativement réunies pour être un bon candidat à la Commission européenne. Il faut une compétence technique reconnue, il faut une surface politique importante et il faut une image personnelle irréprochable. Sur le dernier point, je ne suis pas sûr sur le second, sur le dernier point en tout cas, je crains qu'il y ait eu une méconnaissance ou une forme de désinvolture par rapport à ce qu'est la procédure de nomination des commissaires européens. Maintenant, vous allez avoir des auditions et les auditions au Parlement européen, ce sont des vraies auditions. Il va falloir que Sylvie Goulard s'explique non seulement sur l'affaire du Modem pour laquelle elle a démissionné, mais y compris sur les rémunérations qu'elle a touchées lorsqu'elle était députée européenne de la part d'un think tank américain. Et là, il va falloir qu'elle donne des explications jusqu'au bout. Et je pense que ça ne va pas être si facile.
Natacha ?
Non mais j'irai plus loin. C'est une aberration. Emmanuel Macron réussit son G7, prend la main dans un contexte européen où en effet l'Allemagne est affaiblie et où le reste de l'Europe attend et est en situation très peu stable. Il aurait la possibilité de jouer quelque chose et là tout à coup, il se tire une balle dans le pied. En effet, Sylvie Goulard est fragilisée par les affaires qui l'entourent, mais pas seulement. C'est aussi un choix qui, à mon avis, est une erreur. Pourquoi ? Parce que je soulignais le discours d'Emmanuel Macron aux ambassadeurs sur l'indépendance nécessaire de l'Union européenne, sur la notion de puissance, mais Sylvie Goulard a toujours soutenu une Union européenne qui, justement, est celle qui n'avait aucune volonté de puissance, aucune capacité d'action. Et elle est une personnalité politique profondément fédéraliste qui explique qu'elle se sent plus européenne que française. Alors que l'Allemagne a toujours tenu tous les postes clés dans l'Union, ce qui lui permet de faire valoir ses propres intérêts. Nous, Français, nous continuons à être pieds et poings liés en nommant surtout des personnalités qui ne vont pas défendre les intérêts français. Parce que ce serait pas bien, il faut prouver qu'on est des bons Européens. C'est idiot, parce que l'Allemagne, pendant ce temps-là, a affaibli l'Union Européenne.
Juste un mot. Nul ne conteste la compétence technique, la connaissance des dossiers européens et des rouages européens de Sylvie Goulard. On doit remarquer quand même la lenteur de la justice française. Sylvie Goulard a démissionné il y a maintenant fort longtemps.
Ouais, il y a 2 ans.
À peu près rien ne s'est passé. Ce n'est pas acceptable. En revanche, il y a un point sur lequel je suis en désaccord avec Natacha. Le commissaire européen français n'est pas là pour défendre les intérêts de la France.
Mais bien sûr, officiellement.
Et c'est vrai de l'ensemble des commissaires qui sont là pour défendre l'intérêt général européen. Après qu'il y ait
nous avons déjà débattu de cette question.
Après qu'il y ait une concordance de vue entre un pays et son commissaire, c'est évidemment mieux. Mais si la Commission n'était que l'addition de défense d'intérêts nationaux, eh ben, elle n'aurait plus de raison.
Nous sommes bien d'accord, mais on n'est pas obligé de dire qu'on ne se sent pas français mais européen. Il y a un équilibre à trouver.
Là-dessus, vous êtes d'accord.
Toujours.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Nous avançons sur un nouveau programme législatif, sur la sécurité, les hôpitaux et sur le financement de l'éducation. Et il y aura tout le temps qu'il faut des deux côtés avant ce sommet européen crucial du 17 octobre. Suffisamment de temps pour que les députés débattent, pour le débat sur l'Union européenne, sur le Brexit et sur les autres sujets.
C'était une déclaration du Premier ministre britannique Boris Johnson à la télévision ce jeudi. Nouvel épisode dans le feuilleton du Brexit. Nous allons devenir des experts des institutions du Royaume-Uni. Alors le Parlement britannique est donc suspendu du 9 septembre au 14 octobre de manière exceptionnelle. On présente ça comme un coup de force du Premier ministre britannique. Les travaux du Parlement ne reprendront que 15 jours avant la date du Brexit. Au fond, c'est comme si Boris Johnson voulait aller vers cette solution d'une sortie de l'Union européenne sans deal, Gilles.
C'est probable. Il sait qu'il a une majorité très fragile. Il a une voix de majorité et il sait que la majorité du Parlement, elle l'a voté à plusieurs reprises les mois précédents, est hostile à une absence d'accord avec une sortie sans accord. Donc, il a voulu éviter d'avoir une bataille sur les deux fronts, un front interne avec son Parlement et en pleine négociation avec l'Union européenne. Et donc, il a fait cette manœuvre qui est une manœuvre inédite dans l'histoire parlementaire britannique. Je crois que ce qui est en jeu avec cette histoire, il y a deux choses. Il y a d'abord une grave crise démocratique, parce que le cœur de la démocratie britannique, plus qu'ailleurs, c'est le Parlement. Et lorsque l'on voit le Speaker, le président de la Chambre des communes, qui est toujours tenu, qui est conservateur, mais qui est toujours tenu à un devoir de neutralité, parler d'outrage constitutionnel, on mesure l'ampleur du séisme. Mais il y a un autre élément sur la crise démocratique, c'est que la spécificité du Royaume-Uni, c'est que c'est un pays qui n'a pas de constitution écrite. C'est un pays qui vit avec des règles non écrites, des précédents, des traditions. Et lorsque ces règles, ces précédents ne sont plus respectés, c'est particulièrement problématique. Et puis, ce qui est en jeu, deuxièmement, c'est pas seulement une crise démocratique, c'est une crise nationale, une crise de l'unité britannique. Elle était déjà en cause avec le Brexit. On voyait que aussi bien l'Écosse, d'une certaine manière le Pays de Galles, l'Irlande, évidemment, on voyait les difficultés avec l'Angleterre. Mais par ailleurs, l'unité britannique, elle est au Parlement. Et donc, la suspension du Parlement, je crois que ça met en cause à la fois la démocratie et l'unité britannique. Et donc, c'est très sérieux.
Natacha.
Oui, sur la question de l'unité britannique, en effet, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Mais pour revenir sur ce que vous disiez avant, Gilles, vous dites que le Parlement britannique est hostile à une sortie sans accord. C'est vrai. Mais comme ce Parlement a été incapable, justement, d'accepter un accord, de se mettre d'accord, on ne sait toujours pas pour ou sur quoi le Parlement britannique peut s'entendre. Et c'est bien le problème depuis 3 ans. Or, c'est tout le paradoxe et tout le danger de cette situation, c'est que Boris Johnson se présente comme celui qui, in fine, parce que les parlementaires ne peuvent pas s'accorder, va appliquer tout simplement le vote des citoyens britanniques. Et nous voyons dans ce moment, vous disiez une crise démocratique, mais la crise démocratique, il faut bien la définir. C'est une crise de remise en cause partout en Europe de la démocratie parlementaire représentative. Pourquoi ? Parce que depuis déjà quelques années et même quelques décennies, les représentants se sont peu à peu détachés des citoyens. Je pense que, en fait, ce que nous voyons un peu partout, c'est la fin d'un cycle qui est un cycle d'environ 40 ans, c'est le cycle néolibéral. Et ce néolibéralisme, cette dérégulation, a petit à petit fait émerger des élites politiques, économiques, qui se sont détachées, qui n'ont plus tenu compte de la volonté des citoyens un peu partout. Et c'est cela que nous voyons se jouer, c'est-à-dire que les parlementaires sont en majorité hostiles à une sortie sans accord, mais de toute façon, ils ne se sont pas mis en quatre suffisamment pour appliquer ce vote des citoyens, et ils ont freiné cette possibilité.
Les citoyens ont voté pour sortir de l'Union européenne, mais ils n'ont pas voté deal ou pas deal.
Mais bien sûr, mais ils ont voté pour sortir. Or, cette sortie, elle est bloquée aussi bien du côté de l'Union européenne. Bon, Theresa May a fait tout ce qu'elle pouvait pour essayer d'appliquer ce vote, et elle l'a fait de façon parfois héroïque. Simplement, si vous n'avez pas des représentants qui tiennent compte exactement de ce que veulent les citoyens, vous fracturez cette démocratie. On le voit aussi en Italie.
Gilles, qui est une crise de la démocratie représentative au Royaume-Uni, peut-être un peu moins qu'ailleurs, mais dans toute l'Europe et même dans tout le monde occidental, il n'y a aucun doute, on en a débattu depuis des mois et des mois. En revanche, il n'est pas anecdotique de savoir ce que le peuple britannique veut réellement. Il a voté pour le Brexit, mais il y a plusieurs sortes de Brexit. Le fait que les Britanniques sortent avec un accord, quel accord ou sans accord, c'est très différent. Et donc, on ne sait pas aujourd'hui ce que veut dire appliquer le vote des Britanniques. Peut-être faudrait-il leur redonner la parole. Enfin, un tout dernier point, il y a une forme d'ironie quand même. À voir les Français s'épouvanter devant le coup de force parlementaire de Boris Johnson quand on voit la manière dont, non pas pendant quelques semaines, non depuis des décennies, nous traitons notre propre Parlement.
Exactement.
Et tout l'arsenal qui est déployé pour pouvoir le museler.
Alors justement, puisque vous en parliez, Natacha, de l'Italie et des difficultés ou des aléas de la vie des démocraties parlementaires, on apprenait donc que Giuseppe Conte va former un nouveau gouvernement de coalition. Le patron de la Ligue, Matteo Salvini, avait fait exploser la coalition au pouvoir pour obtenir des élections, pour asseoir davantage encore son poids dans le jeu politique italien. Il a perdu son pari. Ça, c'est de l'ordre de la trahison de ce qui s'est joué dans les urnes pour vous, Natacha?
Alors, je ne parlerai pas de trahison de ce qui s'est joué dans les urnes, je parlerai de jeu dangereux de la part de tout le monde. Parce que si Matteo Salvini apparaît aujourd'hui comme le perdant de son coup de poker, je crains, hélas, que ça ne le renforce à terme. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, le mouvement 5 étoiles s'est tiré une balle magistrale dans le pied en faisant le contraire de ce pourquoi ses électeurs avaient voté pour lui. C'était un parti qui voulait en finir avec les vieilles alliances du vieux monde politique. C'était un parti qui s'appuyait sur ce que certains appellent un populisme de gauche, en tout cas la remise en cause du système économique, institutionnel, politique tel qu'il fonctionnait. Et donc un parti qui remettait en cause aussi le fonctionnement de l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Eh bien, ils viennent de s'asseoir sur tout ça pour faire alliance avec un parti qui est un parti social-démocrate classique. Donc, ils perdent leur raison d'être. Donc, la contestation du système. Eh bien, le monopole en revient, hélas, à Matteo Salvini. Je pense que c'est profondément aberrant de voir en plus Giuseppe Conte, qui a pu donc être le président du Conseil d'une coalition de la Ligue et du Mouvement 5 étoiles, et qui tout à coup peut être président du Conseil d'une autre coalition qui va mener une politique radicalement différente. Tout ça est aberrant, donne une image tragique de la démocratie représentative parlementaire, et je crains que ça ne se voit dans les années à venir.
Gilles Finkelstein.
Oui, c'est aberrant, c'est tragique et c'est dangereux. Si on veut essayer de comprendre ce qui s'est passé, il faut repartir du vote des élections législatives de mars 2018. Il n'y a pas eu de trahison parce qu'il n'y a pas eu de message clair. On s'est retrouvé avec ce que l'on peut appeler un gouvernement des gagnants, ceux qui avaient un peu gagné à l'époque, qui était la Ligue, parti d'extrême droite, et ceux qui avaient beaucoup gagné, parti populiste inclassable, le mouvement 5 étoiles. Au prix d'une trahison, pour le coup, de la Ligue qui était en alliance avec la droite classique, au prix d'une naïveté du mouvement 5 étoiles qui a cru pouvoir faire alliance avec la Ligue, et au prix d'un compromis des uns et des autres qui se sont retrouvés avec un Premier ministre qui était un universitaire qui n'était ni de la Ligue ni du mouvement 5 étoiles. Un an après, c'est ça qui est très important à comprendre, il y a eu un renversement complet du rapport de force. Ceux qui avaient un peu gagné la Ligue se sont retrouvés très haut aux élections européennes, avec plus de 30% des intentions de vote. Et donc Salvini a voulu, je reprends sa formule, obtenir les pleins pouvoirs dans la mémoire italienne. Ce n'est pas rien, en provoquant des élections anticipées. Et donc là, on se retrouve devant une situation très classique. Le Parti démocrate a fait le mouvement, Matteo Renzi le premier a dit « on peut discuter et on peut faire l'alliance avec le mouvement 5 étoiles ». Évidemment, ça va être très compliqué. Le risque, c'est que effectivement, dans un an, dans deux ans, eh bien, ce soit Matteo Salvini qui aujourd'hui est affaibli, qui aujourd'hui a arrêté son coup, eh bien, en tire les maillons du feu. Donc, c'est pas seulement bâtir une alliance défensive. Il faut que cette année, ces deux années, je ne sais pas combien de temps ça va durer, eh bien, elle soit profitable pour les Italiens et que notamment dans les relations avec l'Union européenne, les choses s'améliorent. Et c'est vrai sur l'économie, mais c'est vrai surtout sur la question migratoire où les Italiens, à raison, ont eu le sentiment d'être abandonnés.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Voilà, cette jeune Suédoise si sympathique et si souriante. Tellement originale.
C'était Nicolas Sarkozy qui était invité à l'université d'été du MEDEF ce jeudi 29 août et un commentaire, un de plus négatif, critique contre Greta Thunberg, cette jeune Suédoise si sympathique, si souriante, tellement originale dans sa pensée, disait l'ancien président de la République, puisque Greta Thunberg vient d'arriver à New York, accueille incroyable et chaleureux avec une flottille de bateaux qui est venue accueillir son voilier avec lequel elle traversait l'Atlantique pour se rendre aux États-Unis. Pourquoi tant de haine, Gilles, contre cette jeune femme?
Il y a
cette jeune fille.
Une multitude de procès qui lui sont intentées. Il y a un procès en incompétence, elle viendrait prendre la place des experts, on l'a vu lorsqu'elle est venue à l'Assemblée nationale. Un procès en inexpérience, elle est jeune, qu'elle retourne à l'école. Un procès en incohérence, si elle voyage en bateau, mais ses équipes vont aller en avion. Bon, je trouve qu'il y a beaucoup de mépris, et moi je n'ai pas une passion pour Greta, mais je suis surtout contre ceux qui sont contre. Et donc je trouve que là, dans les formules de Nicolas Sarkozy, il y a une forme de mépris, que ce procès souvent est infondé, elle est beaucoup plus robuste sur le fond qu'on ne le croit, et qu'il y a surtout, et c'est ça qui me dérange en fait profondément, une forme de procès hypocrite. On s'attaque au messager, alors qu'en fait, ce que l'on conteste, c'est le message, et donc c'est la question, l'importance, l'urgence de la question environnementale.
Vous sentez visée, Natacha, par ce que vient de dire Gilles ?
Non, pourquoi ?
Non, mais en l'occurrence, parce que vous avez été critique sur Greta Thunberg.
Sans mépris, une critique, tout simplement, parce que je pense en effet qu'il y a des engouements médiatiques qui me semblent moins intéressants que des réflexions sur le fond. Donc,
pourquoi tant de haine, malgré tout ?
Mais il n'y a pas... Arrêtons avec cette idée. Oui, mais arrêtons avec cette idée de haine, de voir de la haine partout. Il n'y a pas de haine à critiquer. Il peut y avoir des gens qui sont excessifs, mais une critique justifiée de la question de savoir comment on traite les problématiques essentielles qui sont les problématiques écologiques me semble nécessaire. Alors que Nicolas Sarkozy fasse son spectacle, en effet, pour maquiller le fait qu'il n'a strictement rien fait pour l'écologie, et que son bilan est dramatique à part un supposé Grenelle de l'environnement, ça c'est une chose. Mais après, on peut essayer de raison garder, trouver que à partir du moment où Greta Thunberg est invitée par les grands de ce monde pour parler, il y a quelque chose d'un petit peu gênant, c'est-à-dire que finalement on se demande qui elle dérange réellement et quels sont les intérêts qu'elle met en danger, si elle est adulée par Davos, les puissances financières et les parlementaires qui ne font pas tellement avancer la cause écologique. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut se poser la question. Et il me semble que les engouements émotionnels qu'elle peut susciter peuvent éventuellement être intéressants uniquement si ensuite ils sont transformés en véritables politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait concrètement, politiquement, quand il y a des intérêts contradictoires.
Un mot avant d'accueillir Laurent Geoffrin.
Oui, Nicolas Sarkozy, non seulement n'a rien fait, mais 10 ans après, manifestement, n'a rien compris non plus.
Ah non, ça, on est bien d'accord.
Quant à Greta, elle joue un rôle utile si elle est...
Cela étant, il a été largement applaudi par les patrons qui assistaient à son discours.
Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne nouvelle. Oui. Et en plus, c'est d'autant plus paradoxal que beaucoup d'entreprises jouent un rôle très utile et ont... pour le coup, beaucoup changé leur mode de production et ont tenu compte de l'environnement.
Donc, oui, enfin, on est quand même loin du compte de ce point de vue-là.
Évidemment, mais elles sont souvent plus en avance qu'on ne le croit, en tout cas ont plus bougé. Là où Greta peut jouer un rôle utile, c'est en tant qu'éveilleur de conscience, donc ça serait très bien. Après, c'est moins utile si les débats autour de sa personnalité viennent empêcher les débats de fond sur les priorités.
Oui, il y a tout de même là-dedans, une fois de plus, le travers de l'époque qui est la personnalisation et le narcissisme outrancier. C'est pour ça que je pense qu'il faut replacer la question sur le plan politique, c'est-à-dire quelles sont les politiques efficaces, utiles, jusqu'où va-t-on dans l'idée d'une forme de décroissance ? Est-ce qu'on accepte de remettre en cause le consumérisme ? Tous les jeunes qui aujourd'hui sont profondément enthousiastes face à Greta Thunberg sont forcément et évidemment très sympathiques et intéressants dans cette démarche. Après, la question est de savoir par exemple comment ils utilisent les réseaux sociaux, sachant que Internet, aujourd'hui le numérique, est le plus gros consommateur d'énergie. Il y a des enjeux majeur de ce point de vue-là.
On peut envoyer un cœur, un emoji cœur avec Greta Thunberg grâce aux réseaux sociaux. Tout de suite, le grand face-à-face continue avec le débat et notre invité Laurent Geoffrin.
France Inter, le grand face-à-face. Le débat.
Le roman de la France, c'est le premier tome d'un grand récit national, une histoire de la liberté de Vercingétorix à la Révolution. Question d'histoire et d'actualité, puisqu'on croise dans ce livre la famille Le Pen, Éric Zemmour, la théorie du grand remplacement. L'auteur en est le directeur de la rédaction du quotidien Libération. Bonjour Laurent Geoffrin.
Bonjour.
Il faut vous décrire comme un anti-Zemmour. Vous appelez professeur Geoffrin, le prof d'histoire qui fait sa rentrée.
Je ne suis pas historien, je suis journaliste. Mais je pense qu'on peut raconter l'histoire de France à la manière d'un roman d'aventure.
Parce que ça ne suffit pas, les manuels scolaires.
Non.
Et les bouquins d'Éric Zemmour.
Je crains que les... Ah bah, Zemmour, c'est autre chose. Mais je crains que les programmes soient... Je crains que les programmes soient trop abstraits. Et qu'ils soient fondés sur des grands courants, les structures économiques, sociales, etc. Ce qui est tout à fait légitime. Mais c'est pas une bonne manière de raconter l'histoire. Parce que...
Pour vous, ce sont les personnages qui font la pièce?
Oui, les structures, c'est le décor. Elles sont importantes, évidemment. Il faut pas les négliger. Mais ce sont les acteurs qui font la pièce. Et c'est comme ça qu'on introduit le lecteur, ou l'élève d'ailleurs, au plaisir du récit de l'histoire de France, qui est formidable. C'est une saga formidable. Il y a une dramaturgie, il y a une vie, il y a des drames, il y a des crimes. C'est meilleur que les meilleures séries. Hein, le Moyen-Âge français, de Mérovingien jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans, c'est meilleur que Game of Thrones. Et en plus, c'est vrai. C'est ça l'avantage de l'affaire. Donc j'ai essayé de raconter ça.
Et en plus, c'est vrai. Oui. Par différence avec Game of Thrones.
Ben,
bon,
voilà.
Il y a un doute malgré tout. Gilles et Natacha ont lu votre livre de près. Un mot peut-être. D'ailleurs, vous avez un point commun avec Natacha. C'est une passion pour Louis XI.
Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il était sage.
Oui.
C'est un roi sage. Il est horrible, mais il est sage.
On va en parler dans un instant. Mais en l'occurrence, l'éducation nationale, et puisque c'est la rentrée des classes, vous trouvez qu'elle a abandonné ce terrain-là, l'émotion, l'enseignement de l'histoire.
Je ne suis pas dans les classes. Je ne sais pas comment font les professeurs. Je lis les programmes. Les intitulés de programme, je les trouve emmerdants. Voilà. Et je pense que les professeurs corrigent, parce qu'ils ne sont pas idiots, ils savent comment on fait pour intéresser les élèves.
Natacha Polony.
Écoutez, moi je vais vous dire, Laurent Geoffrin, je suis très heureuse d'abord d'avoir lu votre livre, parce que j'ai constaté que nous avions à peu près, sur quasiment tout, la même vision de l'histoire de France.
Je ne suis pas sûr.
Mais si. Et c'est là où vous vous trompez. Si vous, et c'est ça si qui vous est le dites. Totalement
c'est
paradoxal.
Bien vous croire, mais...
C'est oui. extraordinaire. Justement, je vous lis, votre vision de la complexité de l'histoire, c'est-à-dire, vous dites tout à fait justement qu'il faut du récit, qu'il faut des héros, mais en même temps, vous vous employez à démonter les mythologies un peu faciles de l'histoire.
Oui, il faut raconter des choses honnêtement, enfin,
cher
vrai,
Laurent,
si possible.
Nous sommes entièrement d'accord.
Je ne suis pas sûr parce que j'insiste beaucoup.
Je termine.
Vous ne voulez pas être d'accord avec Natacha.
Voilà, je pense que vous ne voulez absolument pas. Ce que je trouve intéressant, c'est justement cette remise en avant du récit, le fait que vous assumez, d'ailleurs, c'est en début de livre, la dimension nationale de ce récit, parce que nous avons un récit commun qui est celui de l'ouverture, de l'intégration, de la liberté. Vous avez totalement raison. Et donc, je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous n'en tirez pas les conséquences. Par exemple, dans votre discours à l'instant sur l'éducation nationale, ça fait déjà très très longtemps qu'il y a un débat sur cette question de la réintroduction du récit, de la façon dont on va construire un programme qui permette à des enfants de s'attribuer cette histoire, quelle que soit leur vie, leurs origines, etc. Tout ça, certains le disent, j'en fais partie.
Moi, je l'ai toujours dit, hein.
Mais oui. Mais alors, pourquoi votre réflexe est-il de dire « mais non, nous n'avons pas la même vision, mais non, nous ne sommes pas d'accord, je ne comprends pas ».
Parce que je ne suis pas du tout souverainiste, je suis pro-européen et vous ne l'êtes pas vraiment.
Mais souverainiste, arrêtez avec ce terme idiot qui n'est jamais défini. Je ne suis pas souverainiste, je suis pour la souveraineté, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, c'est-à-dire la démocratie. Je ne vois pas où est le problème.
Sur ce point, je suis d'accord.
Ben voilà.
Mais non, ce que je veux dire, c'est...
Laurent Geoffrin, puis Gilles Finkelstein.
Parce que c'est à la fois c'est un récit, donc j'essaie d'être vivant, d'être intéressant, etc., autant que possible. Mais ça s'inscrit effectivement dans un débat sur l'identité française. Pour moi, il y a un héritage, c'est indiscutable, il y a des racines chrétiennes, il y a l'héritage des rois, l'héritage de l'État commun, la construction d'un État fort, etc. Ça c'est vrai, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est la France, c'est une idée. C'est une idée qui réunit tout le monde.
Ben oui.
Et c'est pas une ethnie, c'est pas une culture spéciale ou particulière. C'est cette idée de liberté qui est le premier terme du triptyque républicain. C'est ça qui réunit les Français aujourd'hui. Et c'est ça qui permet de réunir les Français de toutes les origines et de toutes les opinions. Et c'est essentiel. Et j'essaye de montrer la progression de cette idée depuis pratiquement les Gaulois.
Depuis Vercingétorix, pour le dire rapidement.
Alors que c'était pas la France.
Enfin, non.
Ils étaient là avant nous, donc ils nous ont précédés. Et j'essaye de montrer en quoi cette idée de liberté a avancé, a reculé, a suscité des combats héroïques, souvent perdus d'ailleurs, et puis petit à petit, la liberté s'impose.
Gilles Finkelstein.
Oui, la France n'est pas une identité, la France c'est une idée, c'est une formule de François Hollande, une très bonne formule. Donc vous reprenez le fait que je partage que la France c'est une idée. Natacha est heureuse et alors moi je suis surpris, donc c'est bien.
Pourquoi?
Parce que Laurent Geoffrin se
concentre beaucoup sur les personnages et sur la vie des personnages et met beaucoup plus de côté les faits économiques, les faits sociaux, les faits culturels, l'insertion dans le reste du monde.
Ça dépend des chapitres.
Dans l'ensemble. Que il se concentre beaucoup sur la question de la liberté et moins comme matrice de la France et moins sur la question de l'égalité. Tocqueville disait la France c'est la passion de l'égalité.
Parce que ça ne va pas, l'un ne va pas sans l'autre, c'est pour ça.
Il parle d'un récit, mais d'un roman, c'est le titre.
C'est le titre.
Et d'ailleurs, il y a des parties qui sont romancées. Hein, quand on parle de la légende d'Aliénor, il y a de longues pages
pour essayer de
l'imaginer.
Je suis tombé amoureux de cette femme.
Hein, elle est formidable. Hein.
Ah bah, telle que vous la décrivez, oui.
Mais bien sûr, c'est un personnage incroyable.
Il y a d'un côté le journaliste social-démocrate et de l'autre côté, un auteur plus traditionnel.
Mais je pense que pour enseigner l'histoire, il faut...
C'est pour ça que Natacha est heureuse.
Comment voulez-vous ? Je vais vous donner un exemple. Vous allez faire un cours sur les Lumières. Vous allez expliquer la tolérance, la séparation des pouvoirs, la raison, etc. C'est très important. C'est emmerdant. Il y a une autre manière de raconter. Vous racontez l'altercation de Voltaire avec le chevalier de Rohan. Et il courtisait la même femme et Rohan dit à Voltaire « Qui êtes-vous, Voltaire ? Arouette, sous-entendu, vous êtes un roturier, un moins que rien, etc. » Et l'autre répond « Mon nom commence ma famille, le vôtre l'a fini. » Et alors, après, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais il s'est fait bastonner après, il est obligé de s'exiler en Angleterre, et ça a donné lieu à beaucoup de ses engagements. Si vous racontez ça comme ça, c'est quand même plus marrant et plus intéressant, non ? Franchement. Mais il faut partir de la réalité, de la vie. Oui. Après, il faut remonter aux idées.
En revanche, parmi les choses qui peuvent vous distinguer de Natacha, il y a un chapitre « Vive la repentance » avec un point d'exclamation. C'est un chapitre consacré à l'esclavage.
J'ai fait un chapitre sur l'esclavage. Je suis parti du code noir. Vous
connaissez
ça.
Vive la repentance, vous l'écririez pas, Natacha, si ?
Non, mais ça dépend. Je n'appelle pas ce que fait Laurent Geoffrin dans le livre de la repentance, mais c'est tout simplement la prise en compte de la réalité d'une horreur humaine.
Oui,
c'est tout. Et il est nécessaire de regarder ça en face. Non, je voulais juste revenir sur un point qui, moi, m'intéresse beaucoup, et une fois de plus, nous serons d'accord, Laurent Geoffrin, c'est le fait qu'on ne peut pas
penser... C'est la magie de la rentrée.
C'est pour ça que Laurent Geoffrin est un mystère pour moi. C'est justement que nous sommes d'accord. Mais nous ne sommes pas d'accord quand vous écrivez en tant que journaliste, mais nous sommes d'accord quand vous écrivez le fond de votre pensée dans un livre comme celui-ci. C'est-à-dire que je crois uniquement à l'articulation entre liberté et égalité. J'étais cette semaine aux universités d'été du MEDEF dans un débat sur la question de l'égalité qui était présentée comme cette obsession française, sous-entendu, qui écrase la liberté. C'est le discours libéral habituel. Et j'ai fait toute mon intervention pour expliquer qu'on ne pouvait pas penser l'un sans l'autre, et c'est ce qui ressort de votre livre, Laurent Geoffrin, c'est-à-dire que il n'y a pas d'émancipation des individus et donc d'exercice de la liberté sans un minimum d'égalité, et c'est ça le génie de la Révolution française et donc enfin des Lumières qui aboutissent à la Révolution française, c'est de faire comprendre que il faut des hommes égaux en droit et qu'il faut que cette égalité soit également réelle pour pouvoir permettre à chaque être humain, à chaque individu, de s'épanouir et de créer.
Laurent Geoffrin.
La liberté sans l'égalité, c'est la liberté pour quelques-uns. C'est le privilège, en fait. Et donc, donc, tous les autres sont tyrannisés, sont opprimés. Donc, les deux notions, elles peuvent se contredire. Il y a des cas, surtout dans le deuxième tome, on verra des contradictions.
Oui, parce que vous arrêtez à cette époque-là,
à la Révolution. Aux époques que je raconte, il y a plein de révoltes que l'histoire traditionnelle tend à oublier. Moi, je ne connaissais pas bien ce qu'on appelle les bagaudes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les bagaudes.
Ben, je l'ai découvert grâce à vous.
Oui, ce sont les Vercingétorix après Vercingétorix.
Oui.
C'est parfois romain, d'ailleurs. Parce que la révolte gauloise pour la liberté, à l'époque, c'est pour l'indépendance à l'égard de Rome, est contre l'oppression romaine, contre les impôts excessifs, contre la dureté de l'armée romaine qui occupait la Gaule. Ces révoltes ont duré 3 siècles. Et elles ont failli parfois emporter l'empereur romain. Et ça, on n'en parle pas. Pourquoi ? Parce que c'est une révolte populaire. Et c'est une révolte pour la liberté et pour l'égalité en même temps. De la même manière...
En même temps, vous en parlez à travers une figure de leader. Vous dites qu'il y a un équivalent de Vercingétorix. Vous croyez en l'homme providentiel.
Providentiel, pas forcément. Je pense que c'est les hommes qui font l'histoire. Ils ne font pas toujours une histoire qui
La providence.
Comment ?
Oui, voilà.
C'est pas la Providence. La Providence, c'est le ciel. Moi, je suis pas chrétien. Mais par contre, effectivement,
non, mais quelle confiance,
les personnages font
l'histoire. Il faut des hommes exceptionnels. C'est très très loin de l'école des Annales. C'est très très loin de Marc Bloch. C'est très très loin.
Oui, mais je vous signale
que vous citez au début
les historiens de l'école des Annales.
Et qu'il y a une résonance de Marc Bloch quand vous dites que quand vous étiez gamin à l'école, vous avez vibré à la chute d'Alésia, aux exactions des Vikings, à la malédiction des Templiers.
Parce que ce sont des histoires formidables.
Mais il y avait un sens, c'était
une histoire républicaine quand même, elle était en partie mythologique d'ailleurs. Mais bon, les soldats de l'an 2, c'est formidable. Donc voilà, oui, on vibre aux soldats de l'an 2.
Gilles.
Oui, c'est beaucoup mieux quand on raconte l'histoire de manière plaisante, de manière intéressante, c'est un moyen en partant
de capter l'attention
et d'aller au-delà et de remonter après en généralité. Donc ça, évidemment, après tout ça est une question d'équilibre entre la part que l'on accorde aux personnages qui font l'histoire, qui savent pas nécessairement l'histoire qu'ils font, mais qui font l'histoire, et aux idées. Sur la liberté et l'égalité, il y a évidemment une articulation entre les deux, une complémentarité entre les deux. Il y a parfois une contradiction.
Oui, mais ça va venir un peu plus tard.
Ça vient un peu plus tard, évidemment, mais c'est parce que je suis...
Robespierre, avec la Révolution française, mais là, j'en suis pas encore là.
Vous n'êtes pas encore là. Mais la France, pays de liberté, oui, sans doute, la France est-elle autant pays de liberté que d'autres pays ? C'est-à-dire dans cet arbitrage entre liberté et égalité...
Moins que l'Angleterre,
moins que les États-Unis.
Mais c'est ce que j'essaye d'expliquer sur Louis XIV, qui était un peu le personnage le plus horrible de l'histoire de France, pratiquement. Il a quand même ruiné son pays et il a terminé obscurantiste.
Oui,
c'est parce que justement, j'ai pris l'angle de la liberté parce que ça vous oblige à réviser votre jugement sur beaucoup de gens. Par exemple, j'écoutais...
Vous réhabilitez Louis XVI, je vous plaisante.
J'écoutais Marine Le Pen qui dit « Moi, mon idole, c'est Richelieu. » Bon, pourquoi pas, c'est un personnage fascinant. Mais Richelieu, c'est un désastre de politique intérieure, en fait, quand on regarde bien. D'accord, il a abaissé les grands et il a unifié le royaume. C'est toujours pareil, on privilégie dans l'histoire traditionnelle tous les gens qui ont construit un État fort. Mais il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas qu'un État fort, il y a aussi l'aspiration de toutes les époques et de toute l'humanité à plus de liberté. Richelieu, avec les protestants, il a commis une erreur historique tragique. Pourquoi est-ce qu'il a voulu absolument faire le siège de La Rochelle, empêcher les protestants de vivre et les ramener strictement à quelques quartiers où ils avaient vaguement le droit de pratiquer leur culte, alors même que les Anglais, au même moment, commençaient à pratiquer une forme de tolérance. Et ensuite, Louis XIV a continué la même politique, en pire, avec les dragonnades et avec la révocation de l'édit de Nantes, ce qui fait que vous avez des dizaines de milliers de gens extrêmement compétents et extrêmement brillants qui sont partis en Angleterre. Et l'Angleterre a pris le dessus sur la France, en partie à cause de ça.
Juste un mot, vous venez d'évoquer la révocation de l'édit de Nantes. Avant la révocation de l'édit de Nantes, il y a l'édit de Nantes.
Oui.
Et c'est là, quand je disais tout à l'heure, que j'ai été surpris par votre livre, l'importance que vous accordez aux personnages et à leur vie. Il y a de longues pages sur la vie sentimentale et la vie sexuelle d'Henri IV.
Ah oui, parce que c'est très drôle.
Oui, mais il y a...
À 30 ans,
ça mérite d'être drôle.
Il pensait que c'était un...
Enfin, c'est drôle, c'était pas drôle pour les femmes.
Il a cru que c'était un os jusqu'à 30 ans.
Alors, je sais pas si c'est apocryphe, celle-là.
Mais.
Non, mais on voit aussi la condition féminine, là. Parce que c'est Strauss-Kahn Empire, là.
Mais il y a peu, et il y a même très peu, il y a même quasiment rien sur l'édit de Nantes, ce qui est pourtant un acte absolument incroyable. Après,
il y a beaucoup d'explications sur la réforme protestante et sur la tolérance
et sur des sujets qui sont au cœur de l'actualité aujourd'hui, sur l'oubli, sur l'amnistie, etc.
Oui, mais justement, là c'est un débat majeur, cette question de la place des hommes et de la façon dont on raconte l'histoire. D'abord, petit point, justement, si on veut débattre de la question du rapport entre égalité et liberté, il faut savoir de quelle liberté on parle. La liberté des anglo-saxons n'est pas forcément la nôtre, justement, parce que nous l'articulons à l'égalité, mais ça n'est pas, on n'est pas moins libre, et parfois on l'est beaucoup plus dans un pays qui est attentif à l'égalité. Et ça nous renvoie donc à cette place de ceux qui émerge, et je pense qu'en fait c'est une question de public, tout simplement. C'est-à-dire que l'histoire telle qu'elle est conçue par l'école des Annales, une histoire qui en effet s'intéresse aux phénomènes économiques, aux masses, c'est une histoire qui est une histoire essentielle. En revanche, ça ne signifie pas qu'il faut raconter l'histoire de cette façon, en particulier aux enfants, en particulier à l'école. Parce que, justement, l'enjeu, c'est de petit à petit les amener de cette histoire, qui est une histoire parfois un tout petit peu romancée, à ce moment où ils seront capables d'aller vers la critique, l'analyse critique de l'histoire.
Et parce que
sinon, et je termine juste en un mot, parce que les enfants ont besoin de modèles identificatoires et de héros. Si Laurent Geoffrin a vibré à tous ces récits, c'est que ça lui a nourri son imagination. Voilà,
petit.
Ça lui a nourri l'imagination. Si mais l'école ne nourrit pas l'imagination des
Laurent
enfants,
Geoffrin.
Ils vont se nourrir ailleurs et ils préfèrent Batman et Spider-Man à l'ensemble des héros, les soldats de l'an 2, etc. C'est dommage.
En plus, d'ailleurs, tout personnage historique, il y a effectivement des courants, des structures, des influences. Donc, je parle des deux. Mais je voudrais revenir sur l'idée de faire un récit, en tout cas national. Parce que j'ai mes amis de gauche, évidemment, ils vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça, l'identité française?
Bien sûr.
C'est horrible.
Oui.
Bon, d'abord, premier point, la République universelle d'Emmanuel Kant, elle n'existe pas. J'y suis favorable personnellement. Je préférerais que toute l'humanité soit unie. Mais c'est pas le cas. Bon, il se trouve qu'il y a des nations, que les gens se reconnaissent dans des héritages, des langues, des cultures, et on en fait l'éloge quand il s'agit souvent de l'étranger. Puis alors, dès qu'il s'agit de la France, on dit, ah ben, c'est horrible, on va parler d'identité française. Oui, mais parlons-en justement. Il faut pas laisser la nation à l'extrême droite. C'est une erreur politique tragique de faire ça. Dire
oui.
nous on est mondial et eux ils sont nationaux.
On est d'accord,
mais ils ont gagné d'avance à ce moment-là.
Oui, vous êtes d'accord sur tout parce que c'est
non, mais
une
c'est vrai.
Critique
et...
à la fois de l'histoire enfin, mondiale
pas...
menée
oui, mais
par Patrick
ça n'empêche
Boucheron
pas...
et de l'histoire nationaliste.
Mais l'histoire mondiale elle complète l'histoire nationale, mais elle la contredit pas.
Mais est-ce que c'est une autre manière de raconter l'histoire ou une sorte d'antidote, pour le dire rapidement, à la manière dont Éric Zemmour ou Philippe de Villiers eux s'emparent de l'histoire de France? Ah,
bien sûr, mais c'est des maurassiens.
Oui.
Ce sont des réactionnaires ontologiques. Ils se présentent comme tels.
Mais c'est la vocation de ce roman que vous écrivez.
Bah oui, j'ai commencé avant que Zemmour publie le tien, donc je ne savais pas. Mais j'ai constaté en lisant Zemmour qu'il racontait une histoire qui est manipulatoire, qui est fascisante, qui est même pétainiste à certains moments, quand il parle de la Seconde Guerre. Et donc c'est horrible. Et si les gens pensent que l'histoire de France, c'est ce que dit Zemmour, c'est très dangereux. Et c'est pour ça qu'il faut raconter une autre histoire de France, qui me paraît plus juste, plus vraie, plus contradictoire et moins mythologique. Et aussi qui donne sa place à l'idée de progrès. Parce que tout ça, c'est un progrès de la liberté jusqu'à aujourd'hui. Et non pas une décadence, comme le dit Zemmour.
Natacha.
Nous avions dit ce que nous pensions du livre d'Éric Zemmour quand il était venu, et
oui,
en particulier de son traitement pour le moins orienté de certains passages de l'histoire, notamment la question des croisades, notamment François Ier, oui, qui tout à coup était un mauvais roi uniquement parce qu'il s'était allié avec Soliman. Bon, tout ça est en effet très particulier, et ce qui est intéressant, je le redis, c'est d'essayer d'entrer dans la complexité, de partir du roman des grandes figures, et ensuite d'entrer dans la complexité, c'est-à-dire dans le fait que l'histoire de France mêle, j'allais dire, l'unité petit à petit construite et le divers. Et que, sans doute, il faudrait aujourd'hui se pencher sur le moment où la diversité est trop écrasée. Ça viendra peut-être dans votre deuxième tome, puisque
deux.
Là, c'est justement toute l'histoire de la construction petit à petit d'une forme d'unité autour de cette idée de liberté, je suis d'accord avec vous, et qui aboutit aux idées des Lumières. Tout le problème est de savoir comment, aujourd'hui, on peut continuer à mettre en œuvre ce que vous appelez un progrès, ce qui est un progrès. Comment on peut continuer à penser cet équilibre entre liberté et égalité, en y ajoutant d'ailleurs la fraternité, parce que la fraternité est un élément essentiel, puisque c'est le passage, en fait, du local, de l'impression de communauté, de proximité, à l'universel. Et c'est cela aussi qui est spécifique en France.
Laurent Geoffrin, pour répondre à Natacha Polony.
Non, je vais juste sur l'école des annales, c'est important.
Oui.
C'est pas exactement la réponse, mais l'école des annales, c'est préoccupé à juste titre des grands courants économiques, sociaux, etc. C'est très, très juste. Je constate que souvent, les historiens qui ont été formés à cette école ont terminé leur vie en faisant des grandes biographies. Des formidables biographies sur un roi, sur un héros français ou étranger, etc. Et donc, parce qu'ils ont bien vu qu'il y a un moment, si vous voulez toucher le public et faire de la pédagogie, au bon sens du terme, eh ben, vous passez par une histoire, par un récit, par des péripéties. Et ensuite, vous réfléchissez autour. Ça n'empêche pas, d'ailleurs. Les bons films, ils ont toujours un grand thème qui renvoie à une des dimensions de l'expérience humaine.
Et qui est le héros de notre temps?
Le héros, comment?
De notre temps, pour
de notre
le
temps
coup.
À nous?
Oui.
Oh, vous me prenez de court, là. Le niveau a un peu baissé, hein.
Le niveau a un peu baissé par rapport à Aliénor d'Aquitaine.
Par rapport à Danton
et à Mirabeau, entre autres.
Et à
compliqué le rapport au passé. Qu'est-ce qui fait que vous avez défendu Yann Moix, pour prendre un sujet d'actualité?
Je n'ai pas défendu, vous dites ça.
Vous êtes venu en tout cas aider à comprendre son geste et à...
Il y avait deux sujets. Il y a le sujet sur la famille, sur ce qu'elle raconte sur sa famille. Au fond, je considère, juste titre, que les écrivains ont le droit de modifier la réalité de leur famille. Alors,
ouais.
Évidemment, il y a des lois. Donc la loi s'applique si c'est diffamatoire. Yann Moix encourt un procès. Mais on ne va pas aller demander à Dostoïevski de savoir si le personnage de l'idiot est exactement celui qu'il a rencontré dans la vie. Ça n'a pas de sens. De même, on ne va pas demander à Proust si c'est vraiment couché de bonheur. Et alors, donc les écrivains ont une liberté totale. Ils ont le droit à la mauvaise foi et au manque de sincérité. L'autre question est beaucoup plus sensible. C'est la question de l'antisémitisme de Moix quand il avait 20 ans.
Oui.
Là, il y a une question et je le défends pas du tout. Au contraire, je trouve qu'il s'explique très mal. Ce qu'il dit, c'est une provocation, c'est amusant. J'ai honte, mais c'était une provocation. Mais enfin, ces textes ont été écrits. C'est long d'écrire un texte de plusieurs dizaines de pages sur le négationnisme. Donc j'en déduis, je pense qu'il était effectivement séduit par ces idées-là qu'il a abjurées ensuite. Oui, j'ai l'impression, pour avoir suivi, qu'il n'a jamais été pris en flagrant délit de quoi que ce soit dans ce domaine. Donc il a changé. On a le droit de changer.
Natacha ?
Je suis d'accord sur la question du statut de l'écrivain et de la nécessaire frontière qu'il doit y avoir entre l'écrivain et le « je ». Qu'il écrit dans son livre, à ceci près que, hélas, nous sommes à une époque qui fait suite à tout ce courant de l'autofiction qui a prétendu, et de façon militante, abolir cette distance entre l'écrivain et le narrateur. Et que du coup, quand Yann Moix joue avec cela en écrivant récit et non pas roman sur son livre, en citant les noms, il introduit lui-même, il a joué un peu trop avec cette ambiguïté. Le problème, ce sont les critiques littéraires qui, pendant des années, on fait semblant de croire que l'intérêt d'un livre, c'était justement qu'il soit une véritable autofiction et qu'il nous dise la vérité. Après, sur l'antisémitisme, en effet, je crois qu'il y a là quelque chose de profond à creuser sur le basculement entre antisémitisme et philosémitisme, sur la façon dont on peut en venir à écrire des textes aussi ignobles. Il y a là quelque chose d'extrêmement problématique.
Gilles Finkelstein.
Alors, d'une certaine manière... Yann Moix aurait dû écrire roman et Laurent Geoffrin récit. Après, sur la question de l'antisémitisme, du droit à l'oubli, position de principe que dans une société, au niveau collectif, on doit oublier des événements, ou en tout cas, il y a des lois, il y a de l'amnistie, on parlait de l'édit de Nantes. Il n'y a pas de société qui peut fonctionner sans ça. Et au niveau individuel, évidemment, on a le droit de changer. Il y a même une prescription, même pour des délits ou des crimes que vous avez connus. Et dans la société numérique dans laquelle...
Avouez que d'autres n'en bénéficient pas.
Dans laquelle nous entrons, le fait que le passé surgisse dans le présent et apparaisse même comme du présent est un gros problème. Après, concrètement, dans l'application du principe, c'est vrai pour Yann Moix, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu la Ligue du LOL il n'y a pas si longtemps, Mehdi Meklat ou Nathalie Loiseau. À chaque fois, ça naît
dans des registres extrêmement différents.
Oui, mais oui. D'une incohérence entre la position qui est affichée et ce que l'on découvre. A fortiori, avec des tempéraments qui sont souvent de donneurs de leçons. Et d'un autre élément qui est très important, c'est la dissimulation. Dans votre parcours politique, que vous puissiez être parti de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, mais que ça ait été connu, que vous ayez pu écrire ça, c'est très différent que tout d'un coup, on découvre ça. Et enfin, malgré tout, que quelqu'un puisse écrire, puisse penser et écrire ça, eh bien, c'est troublant. Et donc, je n'aime pas l'expression de droit à l'oubli. Je crois qu'il y a un devoir légitime de réaction et un devoir d'explication aussi, et que c'est une réaction saine de la société aussi que de chercher à comprendre ce qui s'est passé.
De poser des questions. On va en rester là. On va terminer avec le conseil culturel, un roman, un essai, un film, une chanson. On commence avec vous, Laurent Geoffrin.
Mindhunter.
Mindhunter, la série.
Oui, la série est formidable.
C'est sur Netflix.
C'est comment les policiers découvrent un peu butor, un peu simple comme ça, découvrent la nécessité d'entrer dans la psychologie des criminels. Et c'est très subtil.
Les serial killers.
C'est pas du tout sanguinolent, etc. C'est au contraire. C'est un thriller psychologique et de très très bonne qualité.
Partage votre conseil.
D'accord.
Exactement. Natacha ?
Alors moi, ce sera beaucoup moins récent, mais il se trouve que je l'ai lu cet été. La biographie de Napoléon III par Philippe Séguin. Et c'est très intéressant de voir un gaulliste réhabiliter Napoléon III.
Napoléon le Petit, comme disait Victor Hugo.
Exactement. Louis-Napoléon le Grand.
Guernsey et Victor Hugo.
Cela étant, vous avez écrit un chapitre sur Louis XIV le Petit. Donc, vous n'êtes
Louis XIV,
pas
c'est
si
le plus horrible
aussi.
De tous. Versailles, c'est formidable, mais c'est tout. Tout le reste, c'est horrible.
C'est quand même, avouez, déjà pas mal.
Wittgenstein, un conseil culturel. Ni un récit, ni un essai biographique, c'est un roman qui vient de sortir d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est Sorge Chalandon, et c'est une joie féroce, avec à la fois les grandes qualités de plume et les grandes qualités de récit dont Sorge Chalandon fait preuve dans tous ses romans.
L'ensemble de ses conseils seront évidemment un ancien de Libération, exactement, journaliste de Libération. Merci de Laurent Geoffrin d'avoir été notre invité. J'en perdais mon latin. Le roman de la France, tome 1 de Vercingétorix à Mirabeau. C'est chez Taillandier. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Marie Mérier, à la technique Antoine Teboul. Et quant à moi, je vous dis à demain midi pour Questions politiques avec Yannick Jadot. À suivre sur France Inter, les secrets d'info de Jacques Monin.